France Inter, le 13-14, Bruno Dilvic.
En France, environ 600 000 personnes résident en EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Une maison de retraite sur 5 est un établissement privé commercial. Deux grands groupes dominent le marché, Korian et Orpea, le numéro 1 mondial du secteur. Plus de 1000 établissements dans 23 pays, 65 000 collaborateurs en tout à travers le monde et un excellent taux de rentabilité. Cette réussite cache-t-elle des pratiques plus que discutables, aboutissant à des prises en charge de résidents dégradés qui relèvent parfois de la maltraitance? Le journaliste Victor Castanet a enquêté presque 3 ans sur ce groupe, une bonne partie de cette enquête pendant la période Covid, et il en tire un livre intitulé « Les Fossoyeurs », publié demain chez Fayard, livre qui amène forcément à s'interroger sur la prise en charge de nos aînés à 75 jours de la présidentielle. Alors vous êtes en EHPAD, vous y avez un proche, avez-vous noté des défaillances, manque de moyens, de personnel, peut-être y travaillez-vous? Appelez-nous au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir. Notre intention n'est pas de jeter l'opprobre sur tous ces établissements et les soignants qui y travaillent, mais d'interroger après lecture de ce livre un modèle économique qui amène à oublier le cœur de l'activité, prendre soin des personnes âgées et fragiles. Bonjour Victor Castanet.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Et votre livre commence dans un établissement qui s'appelle Bord de Seine, à Neuilly-sur-Seine, établissement vitrine du groupe Orpea. L'entrée est particulièrement chic, moquette, piano, odeur de jasmin. Et puis on monte au 4e étage, et là ça ne sent plus du tout le jasmin.
Effectivement, l'établissement des Bords de Seine à Neuilly est la vitrine du groupe Orpea. C'est l'un des établissements les plus luxueux et les plus chers de France. Et
mon enquête, on parle d'un prix mensuel à combien?
C'est entre 7 000, le prix d'entrée, oui, d'entrée de gamme, jusqu'à 15 000 euros. Mais disons que la moyenne, c'est autour de 10 000 euros par mois. Et mon enquête, elle part de cet établissement, oui, parce qu'au départ, c'est des membres du personnel soignant, des aides-soignants, des cadres de santé qui m'alertent, oui, sur des cas de dysfonctionnement dans cet établissement, s'agissant du personnel, des carences en personnel et des rationnements au niveau des produits de santé et des, oui, couches, des protections des résidents. Et donc c'est à partir de là que part mon enquête, parce que la question c'est comment est-ce possible que dans un établissement si luxueux et si cher, on fasse face à de telles dérives.
3 couches par jour maximum, 2 biscottes pas plus au petit déjeuner, il y a toute une série de détails comme cela dans votre livre.
Oui, j'ai un grand nombre de témoignages de membres du personnel soignant, des auxiliaires de vie, des aides-soignantes qui parlent, c'est très important de le dire, en leur nom. Oui. Les personnes, il y a des anonymes dans ce livre, mais il y a beaucoup de personnes qui osent parler en leur nom et dénoncer ces pratiques. Effectivement, cette auxiliaire de vie, par exemple, Saïda, elle me raconte qu'elle se croyait en temps de guerre, c'est-à-dire qu'elle rationnait le nombre de protections qu'elle pouvait donner à ses résidents. C'était au maximum 3, mais ça pouvait être moins. Et effectivement, elle expliquait que elle rationnait aussi les produits alimentaires, donc les biscottes. Effectivement, elle me raconte que souvent il manquait de pain, il manquait de lait, et donc il lui arrivait parfois de devoir piquer dans les stocks des placards pour pouvoir nourrir les résidents.
On retrouve une patiente couverte de bleu, un autre enfermé dans sa chambre. Il y a des phénomènes de dénutrition massive. Les 3/4 des patients pas assez à manger ou pas mangeable pour des personnes âgées. Une ou deux personnes pour 14 résidents au 4e étage, la nuit 3 personnes pour 125 lits dans tout l'établissement. Et puis, il y a le cas de celle qui est appelée Madame Burga, ça n'est pas son vrai nom, mère d'un homme politique dont la fin de vie a été accélérée en dehors de tout cadre légal, et je le dis pudiquement.
Oui, c'est un sujet très sensible. On m'a tout au long de mon enquête rapporté des éléments sur cette histoire, et donc ça a pris du temps à raconter cette histoire et de trouver les preuves, la documentation notamment médicale, pour confirmer les témoignages qu'on m'avait apportés. Mais oui, c'est un des drames qui est survenu dans cet établissement.
Alors on peut se dire c'est un établissement, mais vous en avez visité d'autres.
Alors mon enquête, elle part de cet établissement, et c'est suite à ces dysfonctionnements qui me rapportent, que me sont apportés à la fois par les familles et par le personnel soignant, que je décide à ce moment-là d'aller voir d'autres résidences Orpea, d'autres EHPAD partout en France. Ouais. Je suis allé effectivement dans le sud, à Aix, à Marseille, je suis allé en Bretagne, en Normandie, dans l'Aisne, j'ai fait des dizaines d'établissements, et à chaque fois le personnel soignant, mais aussi des directeurs, dont certains parlent encore une fois en leur nom, m'ont rapporté exactement les mêmes dysfonctionnements, c'est-à-dire les carences en personnel et les rationnements au niveau des produits de santé et d'alimentation, et aussi un turnover très inquiétant au niveau du personnel soignant et de la direction, qui faisait que constamment on faisait appel à des vacataires sur des postes censés être permanents. Et donc, ça crée nécessairement des situations de maltraitance.
Et on va voir le modèle économique dans un instant. C'est important de citer le communiqué d'Orpea en réponse à votre livre. Nous contestons formellement l'ensemble de ces accusations que nous considérons comme mensongères, outrageantes et préjudiciables. Il faut dire que vous avez vu beaucoup de monde, à peu près à tous les niveaux de l'entreprise. Alors pas la très haute direction qui a toujours refusé de vous répondre. Et vous avez des témoignages qui ne cessent d'arriver.
Effectivement,
alors, standard,
ce qui est important à raconter, c'est que cette enquête, elle part du personnel soignant qui m'alerte. Et après ça, je suis allé voir pour comprendre le système à l'origine de cette maltraitance dans les établissements, ce système mis en place par les dirigeants du groupe. J'ai dû monter petit à petit dans l'échelle décisionnelle du groupe. Et donc, j'ai vu d'abord personnel soignant, puis après des directeurs régionaux. Et des membres du siège qui témoignent là encore en leur nom de différents services, à la fois le service achat, le service RH, le service médical. Et ces gens-là, ce sont ces gens qui m'ont raconté ces dérives.
Catherine, qui nous a appelé ma belle-mère, j'imagine, a fini sa vie dans une résidence Orpea. Il fallait débourser 3000 euros par mois. Elle n'a eu aucun accompagnement palliatif. Je trouve très bien que des lanceurs d'alerte signalent les abus de ce groupe. Et nous sommes en ligne avec Pascal. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Paris, nous vous écoutons.
Eh bien, votre invité, dont j'ai pas retenu le nom, parle effectivement du
Victor Castanet.
Victor Castanet, ouais. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous avez cité le service achat et moi je n'étais qu'à mon humble niveau fournisseur de ces gens-là. Et on m'a vite expliqué que quand on travaille avec ce genre d'établissement, le personnel comme le client, c'est du consommable. Et que comme le client n'est pas exigeant, rapidement on vous explique que Lidl c'est du haut de gamme, donc il faut avoir une prestation qui soit à la hauteur de la demande du client, donc de l'ultra low cost c'est encore trop cher. Donc et quand vous parlez des odeurs et toutes ces choses là oui, dans ma carrière j'ai vite compris que les démonstrations valait mieux les faire l'après-midi que le matin, parce que le matin c'est intenable.
Alors Victor Castanet, merci beaucoup Pascal pour ce témoignage. Vous voulez le commenter d'un mot et on va parler des fournisseurs.
Oui, malheureusement effectivement ces témoignages de fournisseurs, du professionnel du secteur, j'en ai eu beaucoup et effectivement ils me racontent tous la même chose, c'est-à-dire que cette course au profit, cette obsession de la rentabilité, elle entraîne le rationnement des produits et effectivement aussi à prendre des produits de très mauvaise qualité, à la fois sur les protections mais aussi sur l'alimentaire. Donc c'est malheureusement des témoignages que j'ai obtenus et traduits dans mon livre, et effectivement depuis l'annonce de la sortie du livre, j'ai beaucoup de messages qui me parviennent.
Alors c'est important de préciser que le financement des EHPAD, qu'il soit public ou privé, repose en grande partie sur de l'argent public. Au fond, il y a trois sources. Le tarif hébergement, en gros c'est la prestation hôtelière qui est payée par le résident ou la famille. Le forfait dépendance, ça c'est le conseil général qui prend en charge. Et puis le forfait soins, ça c'est l'assurance maladie. On parle donc d'argent public très largement. Pour un groupe comme Orpea, ça représente des centaines de millions d'euros.
Ouais, ça c'est peut-être un des points les plus importants de ce livre. C'est qu'effectivement le grand public ne le sait pas forcément, mais Orpea, qui génère pourtant des milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, reçoit des dotations publiques pour chacun de ses EHPAD. C'est entre 1 et 2 millions d'euros de dotations publiques annuelles. Et effectivement, ce que me racontent des gens de l'intérieur, des lanceurs d'alerte, du service achat encore, ou des services financiers, me racontent que le groupe avait une gestion contestable de l'argent public, qu'une partie de l'argent public qui devait être allouée au bénéfice des personnes âgées n'était pas utilisée à leur profit.
Alors, comment faire des économies avec l'obsession de la rentabilité? Et au fond, ce qui est très important, c'est que les directeurs des établissements ne sont pas maîtres de leur budget, ne sont pas maîtres de leur personnel. Tout est réglé au siège. En tout cas, c'est ce que vous racontez avec des logiciels, des tableurs Excel, etc. Alors, on fait des économies sur quoi? Sur le personnel, évidemment, des CDD à la place de postes permanents. Et puis, on entendait un fournisseur, c'est pour ça que je trouvais important de l'entendre. On pratique ce qui existe dans la grande distribution, les marges arrière. C'est-à-dire qu'on négocie les tarifs, les couches par exemple, on négocie les tarifs et on se fait rembourser quelque chose à la fin de l'année.
Ouais, ça c'est un système que j'ai mis beaucoup de temps à décrypter, mais effectivement, j'avais au départ des directeurs qui me racontent les rationnements et les problèmes de qualité des protections et qui me disent « je ne comprends pas, je n'ai pas assez de protection, mais j'ai l'impression qu'ils payent vraiment la facture liée à leur dotation publique. Il doit avoir quelque chose derrière. » Et c'est en remontant l'entreprise, en rencontrant de plus hauts dirigeants, que j'ai appris et j'ai eu des documents me montrant qu'effectivement ce groupe avait mis en place un système de marge arrière sur les produits de santé, dont certains sont financés par l'argent public, et notamment sur les protections. Et donc effectivement, ils vont régler leur facture au conseil départemental, ils vont montrer qu'ils ont bien dépensé 10 000 euros qu'ils ont payé à leur fournisseur, et à la fin de l'année, le fournisseur va leur reverser une partie de cette somme via un autre circuit financier. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que je suis allé voir des conseils départementaux et des agences régionales de santé pour leur demander s'ils étaient au courant. Et tous les inspecteurs que j'ai vus me disaient qu'ils n'avaient jamais eu connaissance de ces marges arrière.
Alors ça, on y reviendra. Et la traduction de ces marges que les fournisseurs tirent au plus bas, c'est que par exemple, on reparle des couches parce que c'est vraiment symbolique. Il y a des protections de plus en plus petites pour faire des économies et donc des protections de moins en moins efficaces. Étienne, bonjour Étienne. Étienne, vous êtes au Standard.
Oui, bonjour.
Vous avez travaillé en tant qu'infirmier pour Orpea.
Oui, dans une structure, oui. Chez Orpea, et tout ce que décrit M. Castanet, je l'ai vu, je l'ai subi aussi, parce que j'ai quitté cette maison de retraite, parce que je me sentais maltraitant vis-à-vis des résidents. Manque de personnel, manque de moyens, voilà. J'ai vraiment... Ce qu'a décrit M. Castanet, c'est vraiment ce que moi j'ai vécu pendant très peu de temps, mais voilà. Et j'en suis ressorti un petit peu
abîmé. Blessé. Merci Étienne pour votre témoignage. Oui.
Oui, je veux bien réagir parce que c'est très important. Si vous voulez, moi, quand j'ai lancé cette enquête, on m'a souvent dit faites attention, ne faites pas de l'EHPAD bashing. Et là, quand je vois le communiqué d'Orpea, ils me disent que je porte une charge contre les collaborateurs du groupe. Ce que je veux bien dire, c'est que cette enquête, elle s'est faite justement pour raconter que le personnel soignant est bien souvent victime de ce système mis en place par les dirigeants. Et donc, très souvent, ils se retrouvent, comme dit ce monsieur, à être maltraitants contre leur gré. C'est-à-dire, ils peuvent pas travailler dans des conditions normales. Donc, ils sont obligés de faire des changes trop rapides. Ils peuvent pas prendre soin convenablement des personnes âgées. Donc, ce qu'il faut bien dire, c'est que ce personnel soignant, il est autant victime que les pensionnaires.
Je voudrais encore aborder deux points et puis entendre une autre personne au Standard. Ce qu'établit votre livre aussi, c'est que c'est facile de balader les inspecteurs. Vous en disiez un mot, inspection du travail, agent des autorités de tutelle, assurance maladie, ne sont pas au niveau pour contrôler ces établissements.
Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que ce livre, il raconte à la fois les dérives du leader mondial des EHPAD et des cliniques et les défaillances du système de santé français. Et là, effectivement, j'ai obtenu des témoignages, encore une fois, de gens qui parlent en leur nom et qui sont prêts à assumer leurs propos en justice, qui effectivement me racontent la supériorité du privé sur le public et le fait que non seulement les contrôles étaient trop rares, mais que bien souvent le groupe était prévenu à l'avance, un mois à l'avance. Et donc j'ai une personne qui était au siège, qui lui-même participait à ces dysfonctionnements et qui me racontait comment il préparait les contrôles, comment justement il pouvait modifier des plannings, refaire des contrats de travail avant l'arrivée des inspecteurs.
Témoignage de Christian. Alors c'est pour entendre des témoignages sur d'autres maisons de retraite que Orpea. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, de votre côté?
Bon, moi, ce que j'entends, c'est que sur les infos sur le sujet, c'est que les choses n'ont pas beaucoup bougé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que 2006 à 2014, ma mère était dans une EHPAD de la banlieue de Metz, et plus particulièrement dans l'unité Alzheimer de 14 personnes. Donc, je me suis rapidement rendu compte de certains dysfonctionnements, notamment corporels, à savoir, je rentre dans le concret, hein, des oreilles jamais nettoyées, une douche tous les 15 jours, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lèvres malades, des couches, là aussi, c'est le gros problème, pas souvent remplacées, ma mère sentant souvent l'urine, et j'en passais des meilleures. Et puis le gros problème aussi, c'est que les patients n'étaient quasiment jamais sortis une fois dans l'année pour aller faire les visites des marchés de Noël. Et le gros problème, hein, c'est naturellement un manque de personnel. J'ai pu le constater, moi, avec des fois je partais assez tardivement, il y avait deux infirmières la nuit pour 115 lits. Donc fatalement, quand il y avait des problèmes à l'étage, ouais. les personnes à l'unité Alzheimer, les infirmières étaient seules. Merci. Tout ça entraînant des chutes, etc.
Voilà. Merci beaucoup Christian pour ce témoignage. Un tout dernier mot, Victor Castanet. Les réseaux politiques du groupe, Xavier Bertrand, ministre de la Santé, vous le mettez en cause, de quelle manière ?
Alors là, c'est un sujet qui concerne le sujet des autorisations. C'est-à-dire qu'en France, contrairement à d'autres pays européens, vous pouvez pas ouvrir un établissement de santé sans obtenir un agrément des agences régionales de santé et des conseils départementaux. Et effectivement, là encore, j'ai des gens de l'intérieur qui témoignent en leur nom, qui me rapportent que pour obtenir ces autorisations, il fallait nouer un certain nombre de relations avec de hauts fonctionnaires des agences régionales de santé, voire mieux, des hommes politiques. Et c'est dans le cadre de ce sujet des autorisations que le nom de Xavier Bertrand a été plusieurs fois mentionné. Et d'après les témoignages que j'ai obtenus, il aurait aidé le groupe à obtenir des autorisations d'ouverture d'établissement.
Le livre s'appelle « Les Fossoyeurs ». Il est publié demain par les éditions Fayard, signé Victor Castanet. Enquête longue, fouillée et édifiante. Merci beaucoup
Merci à
d'être
vous.
Venu dans les studios de France Inter. 13h40.